Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Je vous parle d'ailleurs de ce texte de Marie-Ève Cousineau qui disait ceci hier, la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui lance une campagne afin que le gouvernement, Legault, révise le protocole national de triage qui va déterminer quels patients auront droit à un respirateur si les soins intensifs des hôpitaux débordent durant la pandémie. L'organisme qui craint que les personnes qui ont un handicap soient exclues d'emblée de ce traitement en raison de critères qu'ils jugent discriminatoires. Et la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle a dit disait que le protocole actuel les inquiète et elle n'exclut pas d'entamer des démarches juridiques. Alors, je pense qu'on a le bon invité pour nous parler de tout ça. Bonjour, M. Caouette.
Bonjour.
Bonjour. Donc, ça pourrait aller loin. Donc, il y a clairement de la discrimination actuellement en temps de pandémie?
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le protocole qui est prévu, qui a été développé par le ministère de la Santé, c'est un protocole qui va être mis en place advenant le cas où la pandémie devenait critique et, par exemple, on se retrouvait dans un contexte où les urgences étaient débordées. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministère anticipe, en fait, à partir d'un certain nombre de critères qui seraient ceux qui pourraient profiter, en fait, des services de soins intensifs par rapport à des personnes qui ont une probabilité de survie qui est moindre. Donc, de façon très concrète, là, c'est ce que ça veut dire concrètement, c'est que les médecins, en fait, là, dans un protocole là, qui est bien déterminé, ont à appliquer un certain nombre de critères pour en arriver à choisir finalement qui va pouvoir profiter des soins et qui, en fait, n'a pas une probabilité de survie assez grande pour en profiter. C'est donc un contexte, en fait, qui serait très difficile à vivre, qui pose un certain nombre d'enjeux éthiques. Et c'est là qu'il y a un enjeu, en fait, avec certains critères qui ont été adoptés là pour faire ce triage-là.
OK, donc, mais parlez-nous du site qui a été qui est en ligne, là, Triage Québec. Alors, c'est un appel à la mobilisation de la population?
Oui, c'est ça. C'est le site triage.québec. Les gens sont invités à s'y rendre. En fait, il faut bien comprendre ces enjeux-là liés au triage des personnes, de faire en sorte également de pouvoir manifester son soutien là par une pétition également qui est en ligne. Faut savoir, parmi les critères, parmi les 12 critères, il y en a 3 qui sont plus problématiques, dont un qui tient compte de ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle des personnes. Autrement dit, c'est la capacité des personnes à réaliser un certain nombre de tâches dans son quotidien, donc les tâches de la vie de tous les jours, prendre soin de soi, l'entretien ménager, la capacité à s'alimenter par soi-même. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, qui n'est pas en mesure, en raison de ses limites intellectuelles, de réaliser ces tâches-là, se trouve tout de suite désavantagée, même si sur le plan physique, elle pourrait avoir une excellente santé. Donc, on imagine, par exemple, une personne qui est trisomique, qui a 25 ans, bon, on pourrait penser que cette personne-là se trouve désavantagée en cas de COVID, qu'elle se présente à l'urgence, qu'elle a besoin de soins intensifs, par rapport à une autre personne qui est dans la même situation, mais qui n'a pas de, qui n'est pas trisomique, par exemple, simplement parce qu'elle a un score qui est moins bon sur des éléments comme ceux-là. Donc, c'est notamment ce critère-là qui est problématique, en fait, puis qui vient poser un problème là, pour toutes les personnes en situation de handicap.
Mais donc, est-ce que je vais résumer, vous me direz si c'est correct, si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin, c'est-à-dire que si jamais on se retrouvait, il y avait une deuxième vague et là on se retrouvait dans des hôpitaux bondés, les soins intensifs qui débordent, si moi je me présente et j'ai une condition qui est, entre guillemets, bon, qui est, j'ai pas de maladie importante, j'ai pas un handicap intellectuel, j'ai pas, donc on me favoriserait par rapport à cette personne-là, c'est-tu ce que je comprends?
C'est exactement ça, exactement ça. Vous seriez favorisé parce que vous auriez une évaluation à partir des outils qui sont utilisés pour évaluer. Vous auriez une évaluation qui est plus positive. Et ça, c'est un défi parce que derrière ça, c'est une question qui est fondamentalement très éthique. Mais derrière tout ça, c'est la vision qu'on a de la déficience intellectuelle, de l'autisme, de différentes situations de handicap où, en fait, on traite encore dans notre société le fait d'être une personne handicapée comme le fait d'être une personne malade. Alors que le handicap n'est pas une maladie. Et ça, je pense qu'il faut le répéter. Et ce n'est pas non plus un désavantage dans la mesure où la valeur de la vie humaine ne peut pas reposer sur des éléments comme le fait d'être capable de réaliser par soi-même des tâches dans son quotidien. Et c'est là qu'est l'enjeu fondamental derrière ce critère-là. C'est qu'on applique un certain nombre de critères sans considérer finalement qu'un être humain en soi n'a pas plus de valeur parce qu'il est capable de réaliser par lui-même, par exemple, les tâches du quotidien. Il faut aller au-delà de ça et voir la valeur de la vie humaine dans tout ce qu'elle est, dans toute sa diversité, incluant le fait qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont un fonctionnement dans le quotidien qui n'est pas celui de la norme, mais qui n'a pas pour autant moins de valeur. Il faut bien comprendre, c'est une situation là qui pose un défi important sur le plan éthique pour ceux qui auraient à appliquer un protocole comme celui-là. C'est de choisir d'une certaine façon qui a le plus de chances de vivre et qui a le moins de chances de vivre. Mais confronté à cette situation-là, on peut pas en arriver comme société à se dire que le handicap est une raison de justifier d'avoir moins de chances de vivre, parce que ça n'a rien à voir avec la santé physique puis les chances réelles de survie d'une personne face à la COVID.
Dans l'article du Devoir, M. Caouette, l'avocate spécialisée en santé publique, Stéphanie Cloutier, parlait du critère d'exclusion, là, ce qu'on appelle le score de fragilité clinique. Elle l'applique donc, puis vous nous en avez un petit peu parlé, mais donc ça peut s'appliquer à quelqu'un qui a un handicap intellectuel, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui est autiste. Donc automatiquement, ces gens-là se retrouvent avec un score de fragilité plus élevé. Et vous, est-ce que vous êtes d'avis que ça peut créer, ça ouvre la porte à des dérapages?
Bien, ça ouvre la porte parce qu'en fait, sur le plan de la recherche scientifique, on sait, il y a peu d'études là qui ont été faites là-dessus à travers le monde, mais les études qui ont été réalisées, ce qu'on sait, c'est que les médecins dans des situations critiques, par exemple, où ils ont à choisir de poursuivre, par exemple, les soins auprès d'une personne qui est en situation de handicap, la nature du handicap, finalement, est un élément qui est intuitivement considéré par les médecins pour faire ce choix-là. Donc, effectivement, oui, ça, il y a des risques de dérapage. Et c'est pour ça, en fait, qu'en termes de demande, ce qui est indispensable à ce moment-ci, c'est d'abord que le ministère de la Santé, pour ne pas dire directement la ministre de la Santé, exprime clairement, là, de façon très explicite, que le handicap ne peut pas être un élément à considérer dans le choix de donner des soins ou pas, d'abord. Et ensuite, ben, elle doit aussi le donner accès à tout le monde à ce protocole pour question qu'elle puisse, que le ministère puisse bénéficier aussi du soutien de ceux qui sont engagés, qui travaillent dans le champ du handicap, pour aider à faire en sorte qu'il n'y ait aucune discrimination dans ce protocole-là. Donc, c'est certain que, à ce stade-ci, les critères ne sont pas assez clairement explicités. Il y a un flou qui est trop important pour que ce protocole-là puisse être utilisé de cette façon-là.
Bien, M. Caouette, on va garder un œil là-dessus parce qu'on risque de s'en reparler dans les prochaines semaines. Merci de nous avoir allumé là-dessus. Hier, vous nous avez écrit. Je trouvais ça drôlement intéressant. J'avais vu passer l'article, donc je m'y suis replongée, mais drôlement pertinent ce que vous nous soulevez là ce matin.
Bien, merci beaucoup.
Merci. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Martin Caouette, professeur au département de psychoéducation de l'UQTR, titulaire de la chaire de recherche autodétermination et handicap.